Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous. Pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon, je reçois ce matin Alexandre Vincendet, maire Les Républicains de Rieux-la-Pape. Alexandre Vincendet, bonjour.
Bonjour.
Vous recevez ce soir sur votre commune le premier meeting de Jean-François Copé dans le Rhône. On connaît votre attachement pour le candidat à la primaire de la droite et du centre. C'est lui qui vous a lancé en politique. Alors votre soutien à Copé, vous êtes d'ailleurs son porte-parole, est-ce que c'est avant tout de la fidélité ?
C'est de la fidélité, mais pas seulement. C'est aussi un soutien de conviction.
Oui.
Ça fait très longtemps que je travaille et que je soutiens Jean-François Copé, hein, parce que comme vous l'avez dit, on a une longue histoire personnelle ensemble. Hein. C'est lui qui m'a fait rentrer on va dire en politique un petit peu, en tout cas au niveau national, parce que je l'ai suivi à l'Assemblée nationale quand il était président du groupe UMP à l'Assemblée. Notamment, j'étais à ses côtés quand il a porté ce combat sur la burqa,
dont on a parlé au débat,
et dont je tiens à noter que Valérie Pécresse a rendu à César ce qui était à César, à savoir que c'était bien Jean-François Copé qui avait porté cette loi, qui était à l'époque bien combattue par certains. Et puis Jean-François Copé, je l'ai suivi ensuite quand il est devenu secrétaire général de l'UMP. J'ai été à ses côtés quand il a pris la présidence de l'UMP. Et malgré la traversée du désert qu'il a effectuée, alors que tout le monde, ou en tout cas beaucoup, lui avait tourné le dos, j'ai souhaité rester à ses côtés parce que, j'estime que c'est un homme qui a beaucoup apporté au débat national. C'est quelqu'un qui est un élu local dans sa ville de Meaux, qui a eu des vrais résultats. Je compare souvent Meaux à Rieux-la-Pape parce qu'on a à peu près le même taux de logements sociaux.
Oui.
Il a transformé cette ville qu'il a pris il y a 20 ans. En termes d'homme politique, c'est quelqu'un qui est courageux, qui a eu des résultats en tant que ministre du budget. C'est le dernier ministre du budget de la 5e République, sous Jacques Chirac en 2007, à avoir en même temps, dans le dernier exercice budgétaire, réduit les dépenses, réduit les déficits, baissé la dette et baissé les impôts. Ça veut dire qu'il a eu toujours du résultat partout où il est passé. Il a été aussi, quand il était à la tête de notre famille politique, responsable de cette belle vague bleue que nous avons eue au municipal. Et encore une fois, j'estime que dans mon ADN en tout cas, la fidélité, la loyauté et la conviction, ça ne se monnaie pas en fonction des sondages. C'est pour ça que Jean-François Copé me fait l'honneur de m'avoir nommé porte-parole.
Ouais.
Et c'est pour ça en tout cas que je le soutiens quoi qu'il arrive.
Maire de Meaux, ministre d'un gouvernement, c'est quand même autre chose que d'être président de la République. Qu'est-ce qui fait qu'à vos yeux, Jean-François Copé a aujourd'hui le costume pour gouverner un pays ?
Il a une aptitude au commandement. Jean-François Copé, c'est quelqu'un, pour le connaître depuis longtemps, c'est quelqu'un qui a une aptitude au commandement très forte. Il n'a pas la main qui tremble quand il s'agit de décider. Quand il est revenu avec son livre « Le sursaut français » en février dernier, il a théorisé ce que c'était que le sursaut français, cette droite décomplexée qu'il défend depuis très longtemps. Il a chiffré son programme. Peu de personnes le savent, mais ça a été le premier candidat à chiffrer point par point toutes ces mesures.
Oui.
Et c'est le seul aujourd'hui qui a une véritable méthode de gouvernance. C'est-à-dire qu'il a dit « voilà, si je suis élu président », voilà comment je vais gouverner, c'est le gouvernement par ordonnance, ou comment en 6 mois, on débloque tous les verrous de notre pays, et comment on prend des décisions tout de suite. On a l'habitude de dire qu'aujourd'hui, pour faire passer une loi, il faut 18 mois, alors qu'un tweet, c'est 18 secondes. Et on est dans une société où tout va de plus en plus vite.
Mmh.
Et les ordonnances, qui sont une mesure qui avait été prévue par le général de Gaulle en 58, je pense qu'en effet, c'est un des remèdes qui peut permettre de faire sauter nombre de verrous aujourd'hui dans notre pays, pour pouvoir redresser la tête.
On sent de l'engouement dans votre voix quand vous parlez de Jean-François Copé. On ne peut pas dire pareil des autres militants, ou en tout cas des Français, puisque dans le dernier sondage, Jean-François Copé est crédité de 1% d'intention de vote. C'est comme Jean-Frédéric Poisson du PCD. Il reste un mois de campagne. Vous pensez que la pente, on peut la remonter aujourd'hui ?
Moi, je suis déjà toujours très détendu avec les sondages.
Ouais. Bon, 1% fait, quand même, c'est...
J'ai fait, alors, après, de là à dire qu'en effet, il fera dans un mois la course en tête dans les sondages, on est loin de là.
Ouais.
Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, il y a un moment, est-ce qu'on doit faire campagne en fonction des sondages et des intentions de vote, ou est-ce qu'on doit faire campagne en fonction de ses intuitions, en fonction d'un message qu'on souhaite porter, de ce qu'on souhaite incarner ? Je pense que Jean-François Copé est là-dessus. Si Jean-François Copé s'était toujours basé sur les sondages, il ne se serait jamais présenté à Meaux, il ne se serait jamais présenté à la présidence de l'UMP, il n'aurait jamais même pu se présenter à la primaire. Résultat des courses, il a gagné beaucoup de combats qu'on lui prédisait perdus d'avance.
Après cette primaire, après la présidentielle, il y aura les législatives. C'est un dossier qui vous intéresse, puisque vous êtes officiellement investi par les Républicains dans la 7e circonscription du Rhône. C'est celle d'Hélène Geoffroy et de Renaud Gauquelin. On ne sait pas encore d'ailleurs avec certitude lequel des deux sera candidat. Est-ce qu'un revival des municipales face à l'ancien maire de Rieux, c'est quelque chose qui vous tente ?
Moi, de toute façon, je vais regarder ce que je vais proposer aux électeurs de ma circonscription.
Ouais.
C'est mon programme, ce que j'incarne. La République partout et pour tous, parce que je pense qu'aujourd'hui, la politique a besoin de nouvelles têtes. Je pense que j'incarne cette nouvelle génération. On a besoin d'hommes politiques qui ont du résultat. Je pense que sur Rieux, j'ai prouvé, avec une baisse massive de la délinquance depuis que je suis élu, avec une baisse importante du chômage depuis que je suis élu, que j'étais capable d'avoir du résultat. Et la nouvelle génération, les nouvelles méthodes et surtout la culture du résultat, c'est ce que je veux porter. Après, qui que ce soit en face, j'ai envie de dire, ça sera de toute façon le candidat du gouvernement et de François Hollande. Oui. Ce sera le candidat de l'échec. Ce sera le candidat aussi, disons-le, d'une certaine forme de communautarisme et d'une certaine forme de recul de la République dans nos quartiers.
Il y a une petite tâche d'ores et déjà sur votre candidature. Elle concerne trois personnes dans le Rhône. C'est concernant le cumul des mandats, puisque vous êtes maire aujourd'hui et vous seriez donc député-maire si vous gagnez. La loi contre le cumul des mandats vous l'empêcherait. Est-ce que vous êtes prêt à respecter ce que 90% des Français aimeraient voir appliquer, ou est-ce que pour vous c'est une ineptie cette loi contre le
cumul? Je l'ai toujours dit, pour moi c'est une ineptie. Pourquoi? Est-ce qu'on veut que demain il n'y ait que des personnes qui soient déconnectées du terrain à l'Assemblée nationale? Je vois déjà aujourd'hui, alors qu'à l'Assemblée nationale, la majorité socialiste est formée principalement d'apparatchiks, le nombre de mesures déconnectées du terrain que nous, maires, nous devons prendre en charge dans notre quotidien.
Est-ce que vous avez le temps de tout faire? Parce que vous êtes déjà quelqu'un de très occupé en tant que maire, en tant qu'élu métropolitain. Est-ce que vous avez la possibilité d'aller à Paris deux jours par semaine?
Bien, moi je vais vous dire, je pense que cette question du cumul des mandats doit être posée, mais doit être posée dans sa globalité. Cette loi, à mon avis, est populiste. Pourquoi? On va m'expliquer que quelqu'un qui est président de région peut demain être premier adjoint d'une des plus grandes villes de France ou peut être dans le même temps président d'une communauté d'agglos. Autant dire qu'en fait, on peut cumuler deux exécutifs. Et dans l'autre temps, on m'explique que même un maire d'un village de 300 habitants ne pourra pas être député. C'est une ineptie totale. Qu'on remette les choses à plat, qu'on fusionne pourquoi pas même les indemnités, je suis prêt à mettre ça sur la table. Mmh. Parce que je ne fais pas de la politique pour gagner des indemnités, mais pour servir. Parce que je suis passionné par ce que je fais et parce que ce que je veux, c'est pouvoir donner du résultat à mes concitoyens. Si on doit débattre de la baisse du nombre de parlementaires, parlons-en. Si on doit arrêter de faire cette diarrhée législative où on légifère sur tout et sur rien et où on fait des textes qui n'ont ni queue ni tête, parlons-en. Si on doit parler du contrôle, du travail de contrôle du parlementaire qui n'est pas forcément toujours bien fait, parlons-en. Mais je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas les principaux candidats, on dit notamment Alain Juppé comme Nicolas Sarkozy et les autres, sauf Bruno Le Maire, qu'ils étaient pour revenir sur cette loi, non pas l'annuler purement et simplement, mais l'aménager pour qu'on soit dans une loi qui colle plus aux réalités. Parce que sinon, demain, encore une fois, nous n'aurons que des godillots à l'Assemblée nationale et nous aurons des députés qui ne verront des électeurs qu'une fois tous les 5 ans. Et c'est pas et on se laissera griser par les ordres de la République. Moi, je pense qu'il faut des élus qui aient les pieds dans la glaise. Quand on est maire d'une ville comme Aurieux-la-Pape, on a 57% de logements sociaux. Quand on a des difficultés, c'est le maire qu'on vient voir, c'est pas le député. Et si demain, on ne peut pas permettre aux députés justement d'être au contact de cette population, on va les déconnecter très vite parce que sous les ordres de la République, on peut très vite se déconnecter encore une fois.
Justement, intéressons-nous au maire de Rieux-la-Pape pour finir. On a principalement parlé de votre travail municipal sur la sécurité, hein, vous l'avez évoqué, lancement des caméras portatives pour les policiers, c'était une première, un budget important qui est alloué à la sécurité hein, chaque année. Et puis, il y a de la vidéosurveillance, des nouveaux fonctionnaires sur le terrain. Vous montrez les muscles, certains disent que c'est de la com. Est-ce que réellement, dans les faits, il y a une baisse?
Alors, ce n'est pas de la com, c'est du résultat. La sécurité, c'est la première des libertés. Et les résultats que j'ai, ils ont été confirmés par la préfecture, j'étais chez vos confrères de France 3 récemment, ils ont été vérifiés par vos confrères. Oui. Et en effet, les 8% de baisse de délinquance générale en 2015 à Rieux, c'est une réalité. Moins 26% de voitures volées, moins 21% de cambriolages, près de 20% de baisse aussi des agressions physiques, c'est une réalité. C'est pas de la com, c'est de la communication. Mmh. Et au-delà de ça, on ne peut pas résumer toute l'action que je mène à Rieux avec mon équipe à de la sécurité. C'est aussi de la baisse du chômage. Quand je suis arrivé, Rieux-la-Pape, c'était le record du taux de chômage de la métropole. Entre avril 2015 et avril 2016, c'est moins 5% de baisse du chômage général dans ma commune, alors que dans le même temps, dans la métropole et la région, ça augmente. Moins 7% sur cette période-là, moins 7% de chômage en moins chez les jeunes. Ça veut dire que ce que nous mettons en place, la politique de rénovation urbaine avec les clauses d'insertion sociale dans les travaux, les entreprises qui sont en train de se réinstaller, la politique que nous mettons en place avec deuxième chance pour les jeunes en difficulté, la garantie jeune où la ville a investi avec la mission locale pour des nouveaux locaux, ça fonctionne. C'est aussi le retour des équipements culturels et sportifs dans notre commune. Nous allons créer un centre-ville en plein cœur de la ville nouvelle. C'est un nouveau pôle culturel, un nouveau cinéma. Tous ceux qui sont dans mon opposition aujourd'hui, en tout cas une partie de l'opposition, et notamment le député sortant, M. Gauquelin, vote contre. Ils ont voté contre la rénovation urbaine, contre la sécurité, contre ces équipements culturels, le cinéma et le centre culturel justement, contre la cité administrative, contre le nouveau centre nautique. Ils votent systématiquement contre tout. Et ce qu'on nous répond en conseil municipal, c'est que les Riards ne sauraient pas quoi faire de tout cela. Mais est-ce que les Riards sont des sous-citoyens? Est-ce qu'on est plus bête à Rieux qu'ailleurs? Je ne pense pas. Je pense qu'à Rieux, on a le droit, comme tout un chacun, à vivre tranquillement dans son quartier, à revoir ses écoles refaites, à voir ses quartiers se désenclaver, à voir de nouveaux commerces arriver et pouvoir vivre dans une ville de 31 000 habitants, comme dans beaucoup d'autres villes, qui se rénovent et qui avancent. Et je pense qu'il est l'heure aujourd'hui pour Rieux de redresser la tête, c'est ce que nous faisons avec mon équipe, Et aujourd'hui, nous allons mettre dans quelques semaines la première pierre du centre-ville avec toutes les grandes autorités du secteur, la présidence de région, la présidence de la métropole, le préfet de région, parce que nous sommes en train d'envoyer un signal fort, c'est que Rieux est en train de devenir non seulement un nouveau terrain de développement fort dans la métropole, mais une nouvelle vitrine nationale de la rénovation urbaine.
L'opposition a peut-être peur qu'il ne vous reste plus de budget pour la fin de votre mandat avec les baisses des dotations de l'État. Il vous restera encore de l'argent pour
vous
faire
savez,
des projets ?
Sur le budget 2016, nous sommes la première équipe depuis très longtemps à avoir fait une baisse massive des dépenses de fonctionnement, moins 1,5%. Cette année, nous avons emprunté beaucoup moins que ce qu'on nous promettait. Et en plus, j'ai réussi à faire plus d'1 million d'emprunts à 0% grâce à la Caisse des dépôts et consignations qui croit en notre politique. Et par ailleurs, en ce moment, c'est le classement des communes. Vous savez, les notes qui sont données au maire par l'association Contribuables et Associés.
Oui.
Je note que quand dans le même temps, cette association qui est apolitique et extrêmement exigeante sur le contrôle des deniers publics par les maires me donne une note de 16 sur 20, ça veut dire que au bac, j'aurais quasiment la mention très bien. Dans l'autre temps, mes opposants agitent les chiffons rouges. Moi, je vais vous dire, j'ai plutôt l'impression que mes opposants ont une peur. C'est qu'on se rende compte que pendant des années où ils ont tenu les manettes, ils n'ont pas fait les actions que je suis en train de mener. Et on verra qu'à la fin de ce mandat, tous les grands chantiers seront lancés. On a des résultats en termes de baisse de l'insécurité. On a des résultats en termes de baisse du chômage. Les entreprises reviennent. Les grands travaux sont lancés. Et Rieux est en train de changer de visage. C'est tout ce qu'ils ont échoué pendant des années.
Et comment ça se passe avec le président de la métropole, puisque c'est lui qui peut donner aussi les grandes lignes hein, pour l'expansion d'un territoire. Gérard Collomb, on le voit beaucoup sur Vaux-en-Velin, il s'intéresse aussi à Saint-Priest. Rieux-la-Pape, c'est un territoire qui l'intéresse ?
Bien sûr. C'est un territoire. De toute façon, aujourd'hui, Rieux-la-Pape est le dernier grand terrain de jeu, si je puis m'exprimer ainsi, de la rénovation urbaine.
Oui.
Si on prend l'ANRU1, le plan ANRU1 qui avait été lancé par Jean-Louis Borloo, ANRU, Agence Nationale de Rénovation Urbaine, Rieux-la-Pape a été un peu le parent pauvre de cette rénovation urbaine. Rieux-la-Pape, c'est 57% de logements sociaux.
Mmh.
C'est le 8e plus gros quartier politique de la ville en termes de population de France. J'ai un des quartiers, si ce n'est le quartier, avec le quartier des Alaniers, 100% de logements sociaux, le plus pauvre, non pas de Rieux, mais de la métropole. Et on s'est vu au début du mandat avec Gérard Collomb, on a eu un langage de vérité. Je peux être opposé sur un certain nombre de mesures qu'il propose en tant que chef d'exécutif.
Mmh.
Cependant, pour le bien commun, pour l'intérêt général de notre territoire et de Rieux-la-Pape, nous avons décidé d'avancer ensemble et nous partageons ce diagnostic, c'est que Rieux-la-Pape ne peut plus être le parent pauvre de la métropole lyonnaise. Quand je vois que dans le même temps, à Vaux-en-Velin, il y a eu, en 2003, 255 millions d'euros donnés pour rénover les quartiers. La Duchère, plus de 180 millions d'euros.
Oui.
Bron, plus de 120 millions d'euros, alors qu'ils étaient à moins de 30% de logements sociaux.
Avec des résultats.
Avec des résultats. Et avec des résultats. Et que dans le même temps, Rieux-la-Pape, 57% de logements sociaux, nous avons eu que 77 millions d'euros. Ça veut dire que nous avons loupé quelque chose. Et aujourd'hui, ce que je défends avec mon équipe et toutes les personnes qui m'entourent dans cette belle aventure de la rénovation urbaine, c'est que sur l'ANRU 2, nous arrivions à décrocher la plus grosse enveloppe sur la métropole et nous visons les 250 millions d'euros. Parce que Rieux mérite aujourd'hui qu'on s'y intéresse.
Merci Alexandre Vincendet. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Merci beaucoup.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.